Bondiblog Centre. www.bondiblogcentre.fr.
Bondiblog Café.
Bondiblog Centre.
Bondiblog Café. Café. www.bondiblogcentre.fr.
Bonsoir à tous, je m'appelle Samuel, je fais partie du groupe d'apprentis du CFA Orléans Métropole qui a travaillé avec ce tribunal pour les rencontres du droit. Nous réalisons donc cette émission en direct du tribunal et nous avons une heure pour mieux vous faire connaître le fonctionnement de la justice. Nous parlerons pendant cette émission du harcèlement. Pour en parler avec moi, Lucas, Valentin, Cécile et Catherine, tous et toutes apprentis au CFA Orléans Métropole, ainsi que des étudiants en droit qui nous recevront plus tard.
Merci Samuel. Oui, effectivement, le thème qui a été retenu par les magistrats qui sont à l'initiative de cette soirée est le harcèlement. Le harcèlement comme un fait de société qui peut tous nous toucher, que l'on soit enfant, étudiant, salarié, jeune, personnes âgées, femmes ou même hommes. On en parle partout, dans les rues, à l'école, au travail et parfois même au sein de l'intimité familiale. On en parle, on en est témoin, on le vit, mais comment y remédier? Comment le prouver? Et quel est le rôle de la justice?
Bonjour Lucas. Pour préparer cette émission, en amont, nous avons rencontré Madame Motte, présidente du tribunal de grande instance, Monsieur Besson, procureur de la République au sein du tribunal de grande instance, ainsi que Maître Mamdi, avocat au barreau d'Orléans. Cette rencontre a eu lieu le 11 septembre. Nous avons d'abord demandé à la présidente du tribunal de grande instance quels étaient les objectifs d'une telle manifestation.
On l'a fait avec monsieur le procureur, hein. Bien sûr, j'étais pas toute seule et puis aussi le barreau, la faculté, le CFA, la maison de la justice et du droit. En tous les cas, moi, à titre personnel, mon objectif, c'est de faire découvrir la justice sous un autre regard, quoi. Voilà. La justice, elle tranche des litiges. Hein. Tout à l'heure, monsieur le procureur le disait, sur des affaires familiales, sur des affaires de contrat, des affaires de responsabilité. La justice est là aussi pour apporter des sanctions quand des personnes donc violent la loi. Là, on est dans le cadre du harcèlement. L'idée, c'est que Alors là, c'est l'ancienne juge des enfants qui parle. Je crois que l'éducation, c'est ce qui va nous permettre de faire changer finalement la société, de la faire évoluer dans ses comportements détestables qui sont le fait de certains individus. Et je crois que l'éducation, c'est ce qui peut aider la société à s'en sortir. Et quand, en tous les cas, quand on organise des actions comme celle-ci, d'abord, il faut qu'il y ait des jeunes, parce que c'est vous, la société de demain, hein, voilà. C'est vous qui pouvez la faire changer. Et puis, c'est aussi l'idée de faire passer un message. Et je crois qu'avec les postes qu'on occupe, le procureur, monsieur le procureur et moi-même, on bénéficie d'un certain crédit dans la société. Il y en a qui nous détestent, mais il y en a quand même qui reconnaissent aussi le travail qu'on fait, qui est un travail de... Parce qu'en fait, c'est ça, la justice. Hein, on est là pour pacifier, hein, pour assurer une régulation dans les interactions sociales. Et voilà, c'est pour... en fait, c'est l'idée, c'est d'essayer de faire changer les mentalités et de faire progresser la société. Alors, c'est notre petit monde orléanais ou loiretain. Mais voilà, c'est une petite pierre à l'édifice.
Puis, nous étions curieux de connaître le parcours professionnel de Madame Sylvie Motte. Nous lui avons posé la question.
Alors d'abord, j'ai fait des études de droit à la faculté de droit de Montpellier. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle l'Institut d'études judiciaires, c'est-à-dire que j'ai préparé le concours de l'École nationale de la magistrature, comme vous l'indiquez tout à l'heure, monsieur le procureur. J'ai réussi le concours et j'ai fait ma scolarité à l'École nationale de la magistrature, qui se trouve à Bordeaux. À l'issue de ce concours, de cette scolarité, j'ai été nommée dans un premier temps juge d'instruction. Je l'ai fait pendant 9 ans. Après, j'ai été assez longtemps juge des enfants. Tout à l'heure, monsieur le procureur a parlé justement de la justice des mineurs. J'ai été aussi pendant quelques temps juge non spécialisé, c'est-à-dire je m'occupais d'affaires familiales, de séparation notamment. Et puis, j'ai été également conseiller dans une cour d'appel. Voilà, et là, je suis présidente du tribunal de grande instance d'Orléans.
Concrètement, Madame la Présidente, quelles sont les missions au sein du tribunal de grande instance ?
Alors, je co-dirige avec Monsieur le procureur ce tribunal, hein, c'est ce bâtiment dans lequel vous êtes entré. Sachez quand même que dans ce palais de justice, il y a aussi la cour d'appel, un tribunal d'instance, un tribunal de commerce et un conseil des prud'hommes. Donc sur tout ce bâtiment, il y a une partie qui est réservée au tribunal de grande instance, donc que nous co-dirigeons. Et dans ce tribunal d'instance, il y a des magistrats et des fonctionnaires, donc 27 magistrats du siège qui sont sous mon autorité,
9
magistrats du parquet qui sont sous l'autorité de Monsieur le procureur, et il y a à peu près 75 fonctionnaires qui sont sous l'autorité d'un directeur de greffe qui lui-même est sous l'autorité des deux chefs de juridiction que nous sommes.
Quelles sont les compétences territoriales du tribunal de grande instance ?
Alors, le département est divisé en deux ressorts. Il y a le ressort du tribunal de grande instance de Montargis et le ressort du tribunal de grande instance d'Orléans. Je ne sais pas géographiquement, tu saurais le faire
Je dirais que l'est du département voilà. Relève du ressort du tribunal de Montargis et l'ouest du département est d'Orléans. Mais nous avons les trois quarts de la population, puisque la plus forte concentration de la population du Loiret est dans l'agglomération orléanaise.
D'accord.
Dernière chose, Madame la Présidente, à quel type d'affaires avez-vous été le plus confrontée ?
Alors moi, à titre personnel, plutôt des affaires de mineurs en danger, de mineurs délinquants, sachant que quand j'étais juge des enfants pour les mineurs jusqu'à 16 ans qui commettaient des crimes, j'avais une compétence pour les juger. Après, comme juge d'instruction, j'ai également eu de grosses affaires. Mais actuellement, là, dans mes fonctions de présidente, je traite un contentieux très spécifique, c'est ce qu'on appelle les référés, les procédures collectives, c'est par exemple les associations, les professions libérales, alors architectes, médecins, vétérinaires, infirmières libérales, sages-femmes libérales, qui sont en difficulté financière. Donc je m'occupe, vous voyez, de dossiers vraiment particuliers. Ce sont des contentieux qui sont souvent réservés au président du tribunal.
Bonjour Catherine. Nous nous sommes aussi intéressés au rôle et aux missions d'un procureur de la République. Et pour mieux comprendre, nous avons demandé à M. Nicolas Besson quelle était sa formation.
Alors j'ai fait des études de droit, et puis j'ai fait également des études de sciences politiques. Et puis j'ai passé, donc, c'est-à-dire au bout de 5 années après le bac, j'ai passé le concours de la magistrature. Donc j'ai réussi ce concours et à partir de là, nous avons une formation qualifiante qui est assez longue, hein, puisque c'est quand même des métiers avec de fortes responsabilités qui durent 31 mois à l'École nationale de la magistrature. Alors on est partagé entre enseignement théorique à l'école qui se situe à Bordeaux et en juridiction où on fait un peu tous les postes de la magistrature, c'est-à-dire substitut du procureur, juge d'instruction, juge du siège. Et puis à l'issue, on choisit un poste en sortie d'école en fonction à la fois de son classement de sortie, c'est un peu partout pareil, et également en fonction des postes disponibles. Donc c'est des études naturellement de droit, puisque pour être magistrat, il y a une très forte dimension humaine, mais il faut avoir au minimum une base technique de magistrat pour bien rendre la justice. C'est la même chose pour un garagiste, il vaut mieux qu'il ait fait de la mécanique plutôt que de la pêche à la ligne, et c'est la même chose pour un médecin, j'espère qu'il a usé ses fonds de culotte sur les bancs de l'université de médecine et qu'il n'arrive pas d'ailleurs. Voilà, donc formation juridique.
Et concrètement, un procureur, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le rôle du procureur de la République dans un tribunal de grande instance, c'est le représentant de la société. C'est-à-dire que dans un procès, vous allez avoir la victime, de façon assez générale, la personne qui est accusée, qui est poursuivie, et puis il faut porter la parole de la société. Donc c'est le procureur de la République qui est le représentant de ce qu'est la société, c'est-à-dire je suis votre représentant, vous, moi, ce qui fait que nous vivons et que nous devons vivre ensemble. Dans ce cadre-là, nous avons plusieurs rôles. Nous dirigeons l'action de la police judiciaire dans le cadre des enquêtes quand il y a des infractions pénales qui sont commises, puisqu'à la fois on a la casquette de quelqu'un qui dirige les enquêtes, mais également qui contrôle la régularité des actions faites par la police. Il ne faut pas laisser les prévenus en contact unique et direct avec la police, il faut qu'il y ait une autorité qui contrôle également leur activité. Nous avons également le choix de la décision de poursuivre ou non les personnes, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une enquête, on peut décider soit qu'il n'y a pas assez de preuves et on classe ensuite, soit en opportunité, on estime que les faits ne sont pas suffisamment graves pour aller devant un tribunal. Et le troisième aspect, on décide de renvoyer les gens, de les poursuivre devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Et là, dans ce cadre-là, nous avons une obligation particulière. C'est notre principe fondamental, c'est la présomption d'innocence. Donc devant les audiences du tribunal correctionnel, c'est à nous de ramener la preuve de la culpabilité de la personne qui est traduite et non pas à la personne de ramener la preuve impossible de leur innocence. Et enfin, nous requérons l'application de la loi et de la peine, c'est-à-dire quand nous estimons que la personne est coupable à l'issue de notre démonstration sur sa culpabilité, en fonction de la personnalité, c'est-à-dire est-ce qu'il est inconnu des services de police, est-ce qu'il est au contraire multirécidiviste, quelles sont les circonstances de commission de l'infraction, est-ce que c'est une infraction grave, pas trop grave, très très grave, à ce moment-là, nous devons proposer une peine au tribunal. Puis ensuite, évidemment, c'est les juges qui décident d'abord de déclarer les gens coupables ou non. Et dans le cas de déclaration de culpabilité, c'est eux qui décident à la fin de la peine. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à tous les stades de la procédure. On a un rôle majeur, mais malgré tout, dans un tribunal, il y a aussi des juges qui sont les décisionnaires finaux. J'espère vous avoir donné les éléments sur le rôle du procureur de la République.
Enfin, nous avons demandé à M. Nicolas Besson pourquoi il a choisi ce métier.
Alors certains pourraient dire par sadisme, je vous rassure, pas du tout, hein, puisque le procureur, un peu dans les images un peu des films, etc., il a une image assez négative, non, parce que je trouve que c'est une fonction qui est particulièrement positive, c'est une fonction d'action. Le juge est aussi dans l'action, le juge est aussi dans la cité, mais un bon juge, il doit se mettre en position de recul pour trancher de la manière la plus éclairée un litige qui y est soumis en faisant la part des choses entre ce que va demander le procureur, qui sera peut-être excessif, ce que va proposer l'avocat de la défense. Donc le procureur, il est dans une dynamique très forte et il est un peu au centre de tout. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez à la fois des contacts avec les services de police et de gendarmerie que vous dirigez, vous avez des contacts virils mais corrects, pour prendre un terme footballistique, avec les avocats qui sont vos adversaires. Vous avez des contacts avec les juges auprès desquels vous amenez un certain nombre de dossiers, hein, et pour lesquels il faut avoir un dialogue constructif. Donc vous êtes un petit peu au centre de tout et je trouve qu'il y a un véritable dynamisme dans les fonctions de procureur. Et pour rien au monde, je changerai de métier parce que c'est quelque chose qui me passionne encore aujourd'hui où j'ai malheureusement pris un peu d'âge.
En parallèle des interviews du procureur et de la présidente du tribunal de grande instance, nous avons rencontré des étudiants de la faculté de droit d'Orléans. C'était le 12 septembre 2019. Ces étudiants avaient pour mission de préparer une pièce de théâtre qui vient d'ailleurs de se terminer il y a quelques instants. Pendant la répétition, nous leur avons demandé combien ils étaient sur le projet.
On est environ une quinzaine, donc on est dispatchés entre les deux scénettes. On ne fait pas tous les mêmes rôles à chaque fois, mais on est environ 15 à peu près.
Nous leur avons également demandé le nombre de scénettes qu'ils préparaient.
Il y aura deux scénettes. Et du coup, les deux traiteront du sujet du harcèlement. Dans le premier cas, c'est du harcèlement d'un couple sur la mère, donc sur une personne âgée. Et dans le deuxième cas, c'est le harcèlement d'une femme sur son conjoint.
Et comment ils s'étaient préparés pour être prêts ce soir ?
Bien, on s'est tous rejoints. Donc à la fac, à l'université, des professeurs sont venus nous présenter le projet. Et sur la base du volontariat, on s'est inscrit, on a dit qu'on voulait participer. Ensuite, on s'est retrouvés tous autour de cette table et on a pu définir les rôles. Chacun a choisi quel rôle il voulait jouer dans chaque pièce. Et ensuite, chaque personne, chaque rôle qui était joué prenait rendez-vous avec le professionnel qui exerce vraiment ce rôle-là dans la vraie vie. Et puis ce professionnel pouvait nous expliquer comment rédiger notre scène, entre guillemets. Et ensuite, on va procéder à des répétitions.
Enfin, nous leur avons demandé ce que leur inspirait le thème du harcèlement.
Oui, ça nous plaît parce que c'est bon. On parle beaucoup de harcèlement aujourd'hui, mais le harcèlement est très large. Il se fait autant sur l'espace public qu'au sein de la famille. Et là, on est véritablement dans des sphères intimes. Donc, ça nous donne accès à réfléchir à des faits qu'on ne voit pas forcément dans notre vie de tous les jours, heureusement d'ailleurs, et des choses qui sont plus du domaine de l'intime et du cercle familial souvent.
Bah oui, c'est un sujet d'actualité, on le voit, la parole elle est un peu plus libérée sur ces questions-là. Dans l'espace public, il y a du harcèlement, dans l'espace intime, il y a du harcèlement, et je trouve que c'est pas mal d'appuyer un peu sur ce sujet-là et d'en faire un sujet de discussion après coup, après les scènes, pour en parler.
Du coup, c'est vrai que le harcèlement, du coup, c'est un mot qu'on entend un peu partout. Et du coup, c'est vrai qu'il a un peu, il a pas plusieurs définitions, mais il colle sur plusieurs situations, on va dire. Après, c'est vrai que nous, du coup, on s'est concentré pour les petites scènes sur des cas qui sont un peu similaires, du coup, qui sont dans le côté famille, le côté intime. Et voilà. Mais du coup, c'est vrai que le harcèlement, on aurait pu aussi choisir de faire des scènes qui parlaient de harcèlement de rue, harcèlement sexuel ou alors le harcèlement au travail aussi qui est très répandu. Du coup, je pense que la motivation aussi, c'est le fait que c'est pas quelque chose qui se fait souvent, mais on rapproche du coup la fac directement du tribunal et c'est quelque chose de bien. Parce que du coup, nous, étudiants, on peut être plus proche du tribunal, être en contact avec les professionnels et avoir peut-être une autre vision du métier qu'on aimerait faire ou une vision plus claire, plus précise. Et il y a ça aussi comme motivation, je pense, derrière tout ça.
Je vais poursuivre ce qu'a dit Dorine, c'est que la filière que nous avons suivie, c'est-à-dire la licence de droit, les trois années après le bac en droit, ne nous enseigne qu'une formation très théorique, très diverse, mais très théorique avec aucun lien avec le monde professionnel. Et c'est vraiment une occasion de rencontre, d'immersion et de découverte vraiment pratique de ce domaine.
Bondy Bloc Café.
www.bondybloccentre.fr.
Nous allons à présent vous parler du sujet de notre émission, le harcèlement. Écoutons tout de suite Monsieur le procureur Nicolas Besson.
Alors, le harcèlement, ce sont des comportements. Alors, il y a plusieurs catégories de harcèlement, hein, on va dire, mais juridiquement, il y en a que deux qui sont juridiquement. C'est le harcèlement sexuel, donc c'est-à-dire des actes répétitifs, de vulgarité, de tripoter la personne, de frotter le regard salace, des remarques toujours sexuées, etc., pour ou pas avoir une relation sexuelle après avoir épuisé la personne. Donc ça peut exister dans le milieu scolaire comme partout ailleurs, notamment dans le milieu de l'entreprise. Puis après, il y a le deuxième concept juridique, le harcèlement moral, qui peut se dérouler en établissement scolaire, qui peut se dérouler dans le cadre d'une entreprise. On va plutôt parler du harcèlement moral. Ce sont des comportements répétés, humiliants, offensants, blessants, harcelants, répétitifs, qui vont avoir, donc ça c'est la première condition, hein, des comportements inadaptés avec une espèce de tête de turc, le deuxième élément constitutif de l'infraction qui va avoir des répercussions morales très lourdes sur la personne. Donc souvent dans ces cas-là, il faut consulter un médecin, un psychologue pour avoir des certificats médicaux qui attestent que ces comportements ont causé un préjudice important à la personne. Donc, les cas classiques, malheureusement, vous les connaissez. C'est celui qui va toujours se faire persécuter dans sa classe. Personne ne jouera avec lui dans la classe. Tout le monde va lui faire... Alors, ça, c'était de mon époque, ça n'existe plus. L'avancement, on appelait ça les moulons. Donc, c'est-à-dire, on disait moulon sur tartempion. Et là, tous les garçons, très intelligemment, allaient le rouer de coups, lui mettaient des coups de pied par terre. Et puis, tout le monde partait en rigolant. Alors, tout le monde rigolait, sauf celui-là qui se levait. Donc, c'est ce type de comportement, des insultes. Alors je crois que maintenant on dit c'est ça, de dire à une personne tous les du matin au soir que c'est un bolos, hein, c'est ça existe encore ce terme, voilà. Donc j'essaie d'avoir un peu des souvenirs j'essaie de me rafraîchir la mémoire, ça doit être dépassé le terme de bolos ou ça existe encore?
Ça existe encore,
donc vous voyez, donc je suis pas encore totalement has-been. Voilà un petit peu les phénomènes de harcèlement scolaire qu'on peut retrouver. Attention, le harcèlement scolaire, après, on peut basculer dans des infractions plus graves. Donc, si c'est une jeune fille, on peut arriver à des phénomènes d'agression sexuelle, voire de viol. Il n'y a pas besoin de lui arracher les vêtements, de la griffer complètement. Ça peut être de la soumettre à force de l'avoir insultée, de l'avoir harcelée. Et donc, là aussi, il faut faire très attention. Et puis, on peut avoir également le grade supérieur. On passe au racket aussi. Celui qui est faible, celui qui se fait persécuter. Après, on va commencer à lui prendre son argent de poche. Enfin, voilà. Donc, c'est des phénomènes qui sont abjects, hein, parce qu'il faut que chacun réalise que quand on est harceleur, on ne s'en rend pas compte, ça fait bien rigoler, mais parfois les harceleurs deviennent dans d'autres sphères des harcelés. Et là, ils comprennent un petit peu leur douleur. Donc il faut essayer de protéger le faible, de protéger celui qui est empathique, de celui qui est un peu différent aussi. Moi, ce que j'ai pu constater dans les affaires de harcèlement scolaire, celui qui a un petit retard intellectuel, on va avoir tendance, au lieu de l'aider, on va le persécuter. Bon, voilà, celui qui va avoir une physique. Parce qu'il est très grand ou parce qu'il est très petit. En fait, c'est des choses aussi absurdes parce qu'en fait, les enfants et les jeunes aussi, vous êtes en réalité très normés. Tout ce qui sort de la norme, ça ne va pas. Et donc, moi, j'ai constaté aussi que souvent, le harcelé, c'est celui qui sort un peu de la norme. Donc, il faut l'aider plutôt que de le persécuter.
Toujours sur le même thème, nous avons demandé à Mme Sylvie Motte, présidente du TGI, son avis sur la question.
Alors, je pense que M. le procureur vous l'a très bien décrit. Donc, je pourrais m'en tenir à une définition légale qui est dans le code pénal que je n'ai pas. Tous les exemples qui vous ont été donnés, que ce soit à l'école, dans une relation de couple, dans le milieu du travail, ça a peut-être été un peu moins abordé. Mais vous voyez bien que c'est une forme, finalement, de pression exercée sur quelqu'un, soit pour le... Comment dire, le rabaisser, soit pour obtenir à son insu, en quelque sorte, quelque chose, une faveur. Dans le cadre d'un harcèlement sexuel, c'est pour obtenir peut-être un rapport sexuel. Dans le travail, ça peut être pour obtenir l'éviction de la personne, en tous les cas la convaincre de démissionner ou de quitter son job. À l'école, c'est une forme de persécution peut-être, hein, parce que je pense que chez les mineurs... Il y a quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui se joue dans le harcèlement. Hein. D'où la difficulté, comme disait tout à l'heure Monsieur le procureur, d'établir des preuves, hein, surtout parmi les jeunes, quand c'est du harcèlement parmi les jeunes.
Le harcèlement est un fait de société et on le retrouve partout, au travail comme dans la rue, à l'école aussi. Des cas de harcèlement scolaire qui arrivent jusqu'au tribunal, ça arrive ?
Alors oui, nous sommes confrontés à des situations de harcèlement scolaire. On n'a pas parlé des juges pour enfants et des substituts des mineurs, des substituts des procureurs des mineurs. Le harcèlement scolaire est une véritable réalité qui peut déboucher sur des enquêtes. Souvent, nous poursuivons des mineurs auteurs de harcèlement. Hein, ça s'appelle, le terme exact, c'est harcèlement moral dans un cadre scolaire que nous pouvons renvoyer effectivement devant le juge pour enfants. Alors soit il se contente de juger en cabinet, soit carrément de juger le jeune devant un tribunal pour enfants. C'est un phénomène qui existe et qu'il faut suivre avec attention parce que vous le savez aussi, si ces situations ne sont pas traitées, ça peut avoir des conséquences dramatiques à la fois pour un petit peu le développement psychologique de la personne qui est harcelée, mais on l'a pu le voir dans des circonstances assez dramatiques, que ça peut parfois aller jusqu'au suicide. Donc on doit être attentif. Donc là aussi, si on a un message à faire passer, il faut faire remonter ça aux enseignants, hein, même si c'est difficile, à ses parents naturellement, il ne faut pas vivre seul. Et puis vous, les jeunes, vous avez ce rôle-là aussi, hein. C'est pas de dire je suis pas une balance, hein, on n'est pas dans une histoire de trafic de drogue. Si vous voyez que quelqu'un est harcelé et que vous ne pouvez rien faire, c'est vers l'adulte qu'il convient de se tourner pour faire cesser ces phénomènes, donc qui trouve là aussi, même pour des mineurs, qui peut trouver une traduction pénale, une poursuite et une condamnation devant un tribunal pour enfants.
Quand on parle de harcèlement scolaire, on parle de harcèlement de mineurs sur mineurs. Alors, on a demandé à Monsieur le procureur les différences de traitement entre mineurs et majeurs.
Alors, La logique de notre système judiciaire, même si ça arrive parfois, le but pour un mineur, c'est pas de l'envoyer en prison. Quand on envoie un mineur en prison, c'est toujours un constat d'échec. Même si parfois, et d'ailleurs, moi j'assume les décisions que nous requérons quand nous demandons à des juges pour enfants ou à des juges des libertés de placer des personnes en prison. Mais bon, l'objectif, si vous voulez, de la justice pénale des mineurs, pour un majeur, au bout d'un moment, récidiviste, on dit on l'écarte de la société, je parle un peu trivialement, mais au moins pendant les 2 ans ou 3 ans où il est en prison, il commettra pas d'infraction. Pour un mineur, on essaie au contraire de prôner des mesures éducatives. Donc c'est la raison pour laquelle existe ce qu'on appelle une excuse de minorité, parce qu'on estime qu'un mineur a un degré de responsabilité moindre qu'un adulte qui est déjà désormais totalement constitué, totalement terminé, si vous me permettez cette mauvaise expression. Donc le principe, c'est qu'un mineur encourt comme peine maximum la moitié de la peine qu'encourait un majeur, c'est-à-dire la moitié de la peine qui est prévue par le code pénal. Si un délit est puni de 10 ans d'emprisonnement, un mineur ne peut encourir qu'une peine de 5 ans d'emprisonnement. Donc on divise par 2 la peine encourue. Alors, ça, c'est la théorie. Et en pratique, ce qu'on nous demande, ce que dit l'esprit de la loi, c'est de privilégier les mesures de sanctions éducatives, qui pourraient être une mesure de réparation, une mesure de travail d'intérêt général, plutôt que d'aller vers l'emprisonnement ferme, même si, comme je vous l'ai indiqué, il arrive malheureusement parfois qu'on n'ait pas d'autre solution que de placer en détention un mineur. Mais bon, le principe le plus simple, pour que vous compreniez, c'est la moitié de la peine encourue par les majeurs.
C'est toujours complexe des affaires de harcèlement. Il y a ceux qui agissent et ceux qui laissent faire. Ceux qui se taisent, rien faire, c'est participer au harcèlement. Monsieur le procureur, comment définit-on la responsabilité d'un mineur dans de telles affaires ?
Alors, la difficulté de définir le degré de responsabilité, c'est qu'en général, pas toujours, mais le harcèlement est une œuvre collective. Donc, qui va être leader, qui va être suiveur, qui a fait quoi ? Donc là c'est un petit peu compliqué. Et là, c'est le rôle à la fois des procureurs, des juges et d'une bonne enquête de police de déterminer le degré de responsabilité des uns et des autres. Mais moi, je vous dirais que dès lors que le mineur est en âge de comprendre, on va dire à partir de 10 ans, on estime que les personnes peuvent être responsables pénalement parce qu'on est dans un âge de raison, entre guillemets, c'est d'arriver à déterminer... Moi, je l'estimerais responsable si c'est de manière consciente, voire concertée et délibérée, qu'il se livre à ces phénomènes de harcèlement. À ce moment-là, la responsabilité de ce mineur me paraît devoir être engagée. Mais là se pose toute la problématique de la preuve. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure sur la première question que vous m'avez posée, il y a un grand principe, c'est celui de la présomption d'innocence. Et donc, pour rapporter la preuve, il faut avoir un certain nombre d'éléments. Il faut obtenir des témoignages. Et là encore, sur ces phénomènes de harcèlement, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'entreprise, vous avez un système de loi du silence. C'est-à-dire que les petits camarades qui ne harcèlent pas, mais qui n'ont pas envie de se retrouver ennuyés et de devenir les nouveaux sujets du harcèlement, vont dire « moi, j'ai rien vu, ça ne m'intéresse pas », etc. La victime, très souvent, n'ose pas parler puisqu'elle est persécutée. Elle se dit « si j'en parle, je vais encore avoir la double dose, si je peux m'exprimer ainsi ». Et très souvent, on se retrouve, quand la victime a réussi à franchir le pas, aidée par les enseignants, par ses parents, d'aller révéler à la police, on va se retrouver avec la parole de l'un contre la parole de tous les autres. Et ça peut être particulièrement compliqué d'établir une responsabilité. Et c'est tout aussi compliqué dans le monde des adultes, dans le monde de l'entreprise, notamment quand il s'agit d'un chef de service ou un patron qui est harceleur. Vous imaginez que tous les salariés voient ce patron harceler un de leurs collègues de travail, mais quand il va falloir aller témoigner, l'emploi est devenu, dans une société où il existe un fort chômage, tellement une valeur étalon que malheureusement, par une certaine lâcheté, mais qu'on peut intellectuellement comprendre, vont préférer dire à la police « moi j'ai rien vu, je ne veux pas être interrogé sur cette affaire » plutôt que de prendre la responsabilité. C'est pour ça que c'est quelque chose, le harcèlement, c'est quelque chose de très compliqué qui se produit tous les jours, mais qui pour la justice est très difficile à appréhender parce qu'on a du mal à rapporter c'est la preuve. Et je pense que si on fait un lien entre le nombre de cambriolages, le ratio entre le nombre de cambriolages, de vols de voiture ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le taux d'élucidation, c'est-à-dire combien de la police arrive à élucider le taux de poursuite, est beaucoup, beaucoup plus important que dans ces affaires de harcèlement sexuel où c'est particulièrement compliqué. Et c'est même plus compliqué, et puis après j'en aurai terminé, mais sur cette question, que les agressions sexuelles ou les viols. Parce qu'il y a eu une révolution quand même qui fait que maintenant les gens arrivent, malgré beaucoup de difficultés, à aller déposer plainte. Souvent on peut avoir de la preuve, il y a une sorte de consensus général. En faisant une enquête un petit peu large, on va avoir des gens qui vont indiquer que la victime s'est confiée. Pour le harcèlement, c'est pas encore entré dans les esprits. Et même il y a des gens qui disent, et c'est le travail, mais là on laissera parler l'avocat, des gens qui se retrouvent renvoyés devant le tribunal et qui comprennent pas pourquoi, parce qu'en estimant, ben, moi je l'ai pas violé, je l'ai pas trop touché, je me retrouve renvoyé pour harcèlement sexuel. Donc il y a encore une révolution un petit peu à faire dans les mentalités pour permettre d'élucider ce type de fait.
Nous revenons sur nos rencontres du droit. J'ai avec moi Julie, qui est étudiante à la faculté de droit, Marine et Ophélie. Alors, comment s'est passée votre présentation ?
Je dirais plutôt qu'elle s'est bien passée pour les représentations qu'on a faites avec les répétitions. Tout a toujours été fait dans une bonne entente. On s'est arrangé avec les emplois du temps de tout le monde. Des répétitions avec beaucoup de stress, mais tout s'est globalement bien passé et j'en suis plutôt assez contente.
Oui, on est tous très contents.
Effectivement, tout s'est très bien passé. On n'a pas eu même de petites disputes pour les rôles. Tout s'est bien passé. On a tout. Vraiment, on est tous très contents de ce qu'on a pu obtenir à la fin.
Qu'est-ce que cela vous a apporté ?
Personnellement, ça m'a apporté une expérience, je dirais, au niveau du rôle de magistrat, carrière que je souhaite faire dans l'avenir. Ça apporte beaucoup de. Un peu plus de vision sur le métier qu'on se prédestine. C'est assez impressionnant à voir.
Oui, voilà, tout pareil. C'est très, très, je trouve ça très enrichissant de voir un procès se dérouler vraiment de l'intérieur et d'interpréter vraiment les métiers, tous les métiers, de vraiment voir comment s'organise un tribunal. C'est vraiment très enrichissant à faire, en tout cas.
Que peut-on faire face au harcèlement ?
La question est assez complexe. Face au harcèlement, selon le harcèlement, je dirais qu'il faut avoir différents types de réactions. Si c'est du harcèlement scolaire, il ne faut pas laisser la personne harcelée de côté. Il faut essayer de lui apporter du soutien, essayer d'en parler, ne serait-ce qu'autour de nous, auprès de nos parents, auprès du personnel compétent, parce que ce n'est pas forcément facile, que ce soit au travail, à l'école ou même dans le cadre de la famille. Ce n'est pas des réactions compréhensibles qu'on peut avoir face à ça. C'est une situation qui est assez complexe, qui le devient encore plus avec les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui prend des proportions parfois énormes et il faudrait obtenir des réactions ou des solutions plus adaptées de la part de la justice.
Oui, je pense qu'il ne faut surtout pas banaliser ce que c'est. Je veux dire, on a tous déjà fait des blagues, etc. Maintenant, c'est important de pas avoir ce genre de réaction tout le temps, de ne pas dire « Oh, ça va, c'est juste une blague ». Enfin, ça, c'est un peu banaliser le harcèlement. Alors que, justement, comme on l'a vu aujourd'hui, le harcèlement s'apprécie au regard des effets sur la personne. Et c'est à ça qu'on doit mesurer si la blague est bonne ou pas. Du coup.
Je dirais qu'il faut en parler, en fait. Le harcèlement, c'est pas parce qu'on est seul, enfin, contre tous, qu'il faut rester dans ce cercle vicieux, finalement. Une personne harcelée va se croire, en fait, au contraire, elle va penser que c'est à cause d'elle, alors que finalement, c'est pas à cause d'elle, c'est à cause des autres. Donc, il faut penser à parler aux bonnes personnes.
Je vous remercie pour ces réponses aux questions. Donc, nous avons également interviewé le procureur pour lui demander quel est le rôle des réseaux dans le harcèlement.
Aggravante, très bonne question que vous me posez là, puisque le harcèlement par le biais des réseaux sociaux est considéré comme circonstance aggravante parce que c'est une caisse qui multiplie les possibilités de harcèlement. Et nous, alors, nous sommes saisis d'un nombre de ce qu'on appelle les sextapes, hein, donc jusqu'au sommet de l'équipe de France de football, vous vous rappelez, il y a quelques années, mais malheureusement, ça se passe dans nos collègues. Donc les jeunes, vous avez grandi avec ça. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, méfiez-vous. Je vais parler crûment, mais quand on entretient une relation sexuelle avec un garçon ou avec une fille, on s'occupe de ça. On ne se filme pas en même temps, parce que là, vous avez le début de la catastrophe. Là, j'ai des dizaines d'affaires où des jeunes filles, et puis après, vous avez dans un phénomène de chantage, vous avez la réputation dans le quartier, et jusqu'à ce que des gens, alors fort heureusement pas dans le ressort d'Orléans, mais qui vont jusqu'au suicide. C'est une caisse de résonance. Faites attention sur vos murs Facebook, c'est-à-dire si vous avez des photos qui sont un peu particulières. Il y a des... Là, je parle aux des garçons qui sont bien contents de se montrer torse nu à 3 grammes hein, après avoir picolé à des trucs. Et puis après, qu'est-ce qui fait votre employeur? Pensez-y à l'avenir. Quelle est la première chose qu'il va faire quand il va vouloir vous recruter? Ben, il va faire votre page Facebook. Et puis s'il vous voit avec une plume dans les fesses à 3 heures du matin totalement ivre, ben, vous n'allez pas avoir donné une première image qui va être très positive. Donc, il y a des choses qui doivent rester dans la sphère privée, qui sont des choses belles, les choses de l'amour. On n'a pas besoin de les partager avec la ville d'Orléans. On est bien d'accord. Donc, soyez très vigilants. Faites très attention à ça parce que un harcèlement, une scène de violence, quelque chose qui va se passer un jour où on sera ridicule. Ben, on l'a tous été dans notre vie. Moi, il m'est arrivé en montant les marches d'un tribunal de me casser la figure devant tout le monde. C'est très désagréable. Mais ben, ça, par Facebook, c'est dramatique. Ça passe en 5 minutes, on a oublié là, et ça dure, et ça s'efface pas, et vous allez pouvoir être sujet à chantage, à harcèlement par rapport à ces choses qui auront été postées et mises en ligne. Donc effectivement, c'est une caisse de résonance et on a beaucoup de difficultés. Et pour tout vous dire, le ministère de la Justice prend tout à fait conscience de cette difficulté, puisque nous venons de recevoir là une instruction générale demandant au procureur de la République de désigner dans son parquet, le parquet c'est tous les procureurs qui travaillent avec moi, c'est de que je désigne un de mes collègues pour être un cyber-référent, c'est-à-dire quelqu'un pour tout ce qui est la cybercriminalité. Alors ça peut aller de l'escroquerie où on va essayer de vous pomper votre compte en banque, mais sont inclus évidemment là-dessus toutes les logiques de harcèlement, de sextape, etc. Par le biais d'Internet. Donc, prudence, je ne vous interdis pas les réseaux sociaux, j'ai rien à faire, mais soyez intelligents et faites attention. Voilà.
Nous avons demandé à l'avocat pourquoi il y avait tant de harcèlement à l'école.
Il y a forcément un problème d'éducation. Il y a également un phénomène de suivisme. Ce que je vous disais tout à l'heure, si je fais partie du camp des harceleurs, pas le meneur, hein, mais celui qui vont mettre la petite claque en plus ou la petite réflexion derrière le caïd ou celui qui mène un peu tout ça, et ben au moins je suis pas harcelé. Et c'est une manière de se protéger, je pense, pour beaucoup de jeunes. Et puis, il y a une question d'identité. Quand on est en fin de l'enfance, quand on est dans l'adolescence, eh ben, on se cherche. Et on cherche les limites. Et quand on cherche les limites, eh ben, on se confronte à l'autre. Donc, on peut le faire de manière créative, on peut le faire de manière brillante en disant je vais être le meilleur de la classe pour. Et puis bah, c'est aussi facile de le faire de manière violente. Je crois qu'il y a une question de construction de soi qui peut compter.
Nous avons également interviewé le procureur pour lui demander quel est l'enjeu de la lutte contre le harcèlement pour la société.
Bah, j'ai un peu répondu à toute cette question, mais là, l'enjeu pour la société, c'était ce que disait à titre liminaire la présidente du tribunal, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience. Alors la société, c'est quelque chose de compliqué, ça peut être violent, il y a des conflits, il y a des oppositions, mais il faut autant que faire se peut essayer, et c'est le rôle des procureurs de la République et de la justice, de trancher et d'apaiser et de faire rentrer dans l'esprit que ces phénomènes doivent rester marginaux, ils doivent être combattus. La vie, se lever le matin, gagner sa vie, construire une famille, vous le savez, même si vous êtes jeune, vous verrez, c'est déjà éminemment compliqué. Puis au milieu peut se rajouter la maladie, les problèmes familiaux, etc. Si en plus s'ajoutent des phénomènes de violence sociale à type de harcèlement, c'est insupportable. Et puis, il faut que les gens y soient dans le bien-être, parce que moi, je constate, quand on est procureur, on est un peu pessimiste, puisqu'on voit le pire de la société. Mais moi, j'ai souvent la sensation que la société, elle va pas très bien. Donc, il faut qu'on arrive à aplanir ce type de difficultés. Et il faut que ça devienne quelque chose d'ouvert, c'est-à-dire qu'il y ait un consensus général de la dite société pour dire que ces comportements sont intolérables, mais pour que simplement nos vies, aux uns et aux autres, elles soient plus douces et elles soient meilleures.
Bonjour à vous, c'est Daniel pour le Bondi Bloc Centre. Je vais à présent interviewer les apprentis pour savoir ce qu'ils ont retenu de cette expérience. Alors, j'ai avec moi Catherine et Samuel qui veut répondre.
Alors, moi, Catherine. Ce que je retiens de cette expérience en tant qu'apprenti à la Maison de la Justice et du Droit et étant apprenti du coup pour le CFA, enfin au CFA Métropole, c'est une expérience très enrichissante, tout à la fois stressante parce que c'est la première fois pour moi de faire une émission de radio. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir rencontrer plusieurs personnes au sein du tribunal, comme le procureur, la présidente du tribunal, et pouvoir discuter avec eux. C'est vraiment que du bonus et une expérience vraiment à vivre. Le fait de pouvoir aussi assister donc au CNET qui a eu lieu tout à l'heure, on a pu découvrir un peu le monde d'une audience, comment ça se passe au tribunal. Enfin, c'était super et j'invite tout le monde à prochainement participer à de tels événements.
Merci Catherine. Samuel.
Je rejoins aussi Catherine sur ce qu'elle a dit. Ça permet aussi de découvrir un milieu qui nous est inconnu. Et c'est super de nous sensibiliser à la justice, au harcèlement, tout ça.
Qu'avez-vous appris l'un et l'autre sur le harcèlement, Catherine ?
Alors, ce que j'ai appris du harcèlement, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de la société, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Et je souhaite dire à tout le monde, peu importe la personne, il faut parler quand on est victime de harcèlement parce que c'est vraiment important de pouvoir s'exprimer et aujourd'hui de montrer qu'on peut être puni par la loi à cause du harcèlement, car aujourd'hui, beaucoup de personnes se taisent et malheureusement, ça cause beaucoup de suicides et je tenais à le dire. Voilà.
Merci Catherine. Samuel.
Ouais, c'est un réel problème de société, je pense, et qui n'est pas assez...
médiatisé.
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce que vous avez appris sur la justice, le monde de la justice, Samuel ?
Écoutez... on apprend un petit peu le fonctionnement, on va dire, du tribunal. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, c'est encore un petit peu compliqué. On rentre un petit peu dedans en ayant vu les CNET, tout ça, mais c'est enrichissant.
Vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous avez appris sur le monde de la justice ?
Alors, le monde de la justice, c'est assez vague, c'est compliqué, parce que là, c'était vraiment un thème précis, donc c'était le thème du harcèlement. Ce que j'en pense, c'est que, il ne faut pas voir la justice comme une punition, mais la justice, elle est là pour aider les gens. Et je trouve ça super aujourd'hui, la justice qu'on a en France, parce que tout le monde peut y bénéficier.
Est-ce que vous avez appris des choses aussi concernant la construction, la réalisation d'une émission de radio ?
Bien sûr. Alors de base, c'était déjà quelque chose que je rêvais de faire. C'est super sympa de pouvoir être autour d'une table et de discuter librement avec vous. C'est un univers aussi qu'on ne connaît pas comme la justice. Et que ce soit au niveau technique ou même de l'enregistrement d'une émission, c'est super, ouais.
Bah oui, je rejoins l'avis de Samuel, c'est vraiment super, c'est vraiment une première expérience et si c'était à refaire, pourquoi pas.
Merci à tous pour votre participation à cette émission. Donc je remercie les apprentis en bac pro au CFA de la Métropole ainsi que les étudiants en fac de droit qui ont proposé ces scénettes et qui ont accepté de répondre à nos questions. Je n'oublie pas la présidente Madame Motte, le procureur Nicolas Besson et Maître Mamdi, avocat, qui ont accepté de répondre à nos questions lors d'une interview que nous avions menée. C'était le 11 septembre dernier. Je remercie également Madame Ménissier, Monique Ménissier, de la Maison de la Justice et du Droit, que vous pouvez saisir, enfin vous pouvez vous rendre justement dans ce lieu, qui se trouve 3 rue Édouard Branly, dans le quartier d'Orléans-la-Source, à Orléans, ou que vous pouvez joindre en faisant le 02 38 69 01 22. Je remercie également à la technique, il y avait Corentin, à l'animation, il y avait Cécile, Lucas, Catherine et Samuel, j'espère que je n'ai oublié personne, ainsi que Valentin, ainsi que tous les autres élèves, voilà, qui ont participé, et puis tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent au monde de la justice et au harcèlement. Voilà, j'espère que nos auditeurs et auditrices auront compris qu'il ne faut pas rester inactif face au harcèlement, qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la société. Alors, je m'adresse aux élèves, ce sont les adultes, voilà, auprès de qui vous pouvez vous tourner en cas de harcèlement. Il ne faut pas laisser faire le harcèlement, il faut le dénoncer. Et puis, il y a également la justice sur qui vous pourrez compter pour vous accompagner dans ces démarches de plainte, voilà, si vous assistez malheureusement à de tels actes. Merci à toutes et à tous. Le Bondy Blog Centre, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café.